C'est toujours un privilège de se tenir là pour partager la parole de Dieu, pour partager ce qu'il a à nous dire et ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui, parce que je suis toujours étonné de voir à quel point la parole de Dieu est pertinente pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de prédications. Vous voyez, il y a une image. Daniel, fidèle jour après jour. Daniel, c'est le nom d'un livre biblique, c'est le nom d'un héros de la Bible, un personnage. Son récit, le récit de sa vie, nous est raconté dans son livre et il est l'auteur de ce livre. Donc voilà, un personnage biblique. Et sans vouloir spoiler la série de prédications, moi, ce qui m'a frappé, c'est la fidélité de Daniel. Alors qu'il vivait dans un monde qui n'allait pas dans le sens qu'il voulait suivre, il s'est efforcé de rester fidèle. Et je crois que c'est quelque chose qui peut nous inspirer aujourd'hui pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Alors sans attendre, nous allons lire aujourd'hui le chapitre 1 du livre de Daniel. Alors, je partageais au groupe de maison... J'ai galéré toute la semaine pour retrouver le livre de Daniel dans ma Bible. Il se trouve après les trois grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et là, il y a Daniel qui est là avant les petits prophètes, Osée, Joël, etc. Vous pouvez chercher dans vos Bibles ou vous pouvez simplement écouter. Le livre de Daniel au chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de ses dieux, et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses hauts fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la descendance royale ou de familles de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms, à Daniel celui de Belteshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et les vins dont il buvait. Et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu accorda à Daniel la faveur et les compassions du chef des hauts fonctionnaires. Le chef des hauts fonctionnaires dit à Daniel, « Je crains mon maître le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi vous trouverait-il en moi bonne mine que d'autres garçons de votre âge ?» Vous me feriez risquer ma tête devant le roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel et de Anania, Michaël et Azaria, « Nous sommes tes serviteurs, mets-nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, et tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec nous d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant enlevait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu donna à ces 4 garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les lettres de la sagesse et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des hauts fonctionnaires les amena devant Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, parmi eux tous, il n'en se trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc devant le roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient dans tout son royaume. Telle fut l'existence de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà. En lisant ce texte, en travaillant ce texte, je me suis dit qu'il était loin de nous dans l'histoire et que peut-être on y trouvait peu d'intérêt. Et puis je me suis souvenu qu'à notre époque, on regarde beaucoup de séries où on voit beaucoup de rois et de cours et d'intrigues, et je me suis dit qu'en fait, c'est un peu pareil et que ça devrait nous plaire. En tout cas, moi, ce récit me plaît, je le trouve vivant. C'est un récit qui commence par une défaite militaire. Une défaite, la défaite du pays de Juda, pays peuple de Dieu, peuple choisi, là où il y a la capitale, Jérusalem, et il commence par perdre. Nabuchodonosor vient, prend le pays, il pille le pays, il pille le temple, et au-delà de la défaite militaire, il y a quand même quelque chose de traumatisant, parce qu'il y a un sens théologique dans cette défaite. Le pays d'Israël, c'est un pays que Dieu avait promis à son peuple pour y habiter. C'était un pays protégé, dans lequel il pourrait suivre la loi que Dieu lui a donnée. C'était vraiment le pays de la promesse. Et cette défaite, la perte de la souveraineté, c'est la fin de la promesse. Dieu n'est-il pas tenu sa promesse ? Est-ce que sa promesse n'est plus valide ? Il y a de quoi se casser la tête quand on est croyant et qu'on voit ça. En même temps, c'est quelque chose qui avait été annoncé. Si on relit dans le Deutéronome, le dernier discours de Moïse avant la prise du pays d'Israël, avant la conquête, Moïse rappelle toute la loi, il dit « respectez bien la loi ». Et si vous ne la respectez pas, il y aura des conséquences. Et parmi les conséquences, vous serez retirés du pays. Et ce matin, ceux qui étaient à la réunion de prière animée par Philippe ont lu la prière de Daniel au chapitre 9. Et Daniel, il a réfléchi, il a relu le Deutéronome et il a vu que ce qui s'était passé, c'était cette punition. Ce n'est pas par hasard que le peuple a été emmené hors d'Israël, ça a un sens théologique. En tout cas, voilà le contexte dans lequel on est. Et dans ce récit plus particulièrement, on a l'histoire d'une assimilation intelligente par Nabuchodonosor. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il a emmené du pays quelques jeunes gens de bonne famille, famille royale, noble, etc. Et c'est une technique qu'il avait mise en place, ce roi, de récupérer l'élite des pays communs, des pays conquis, pour transformer ses ennemis en points forts. En prenant comme ça les meilleurs éléments du pays, il pouvait les mettre à son service et son royaume en était d'autant plus fort. Il y a un cosmopolisme calculé pour créer des proximités et des proximités dans les deux sens. Parce que les élites du peuple de Juda ont été formées par Nabuchodonosor et donc peuvent retourner dans le pays avec cette culture de Babylone. Et puis aussi, ceux qui sont restés dans le pays peuvent se sentir représentés là. Donc, c'est la mondialisation, calculée, travaillée. Et en même temps, Nabuchodonosor, par cette disposition, il essaye de créer une loyauté, puisque ces jeunes gens-là, ils sont privilégiés et il espère du coup qu'ils seront loyaux à son endroit. Ensuite, que se passe-t-il dans notre histoire ? Alors, on a cette histoire fameuse des légumes qui font grossir, qui laisse songeur plusieurs, mais on y reviendra. Ça commence par une formation, une période de formation, un cursus, 3 ans, une licence. Voilà. Une licence en Babylonie ou quelque chose comme ça. 3 ans pendant lesquels tous ces jeunes sont formés. Et puis, on leur donne des privilèges. Il faut que pendant ce temps, ils soient comme des coqs en pâte. Littéralement. Parce qu'à l'époque, les canons de la beauté, c'est d'être un peu grassouillet. Hein, on est dans une période où ce n'est pas l'abondance, où on a plutôt tendance à être maigre, voire squelettique, et avoir un peu d'embonpoint, un peu de gras, c'est signe de bonne santé. Donc c'est le but. Sauf que Daniel et ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria, ont une demande à faire. Ils ne veulent pas manger des mets de la table du roi. Ça devait être ce qui se faisait de meilleur, hein, ce qui se préparait pour le roi, ça devait être ce qui se faisait de meilleur, mais eux, ils ne veulent pas en manger. Pourquoi cette demande? Il la justifie dans ce texte. Daniel dit qu'ils ne veulent pas se souiller. Ma traduction est un peu littéraire, dans d'autres traductions plus actuelles, il est écrit ne pas se rendre impur. Et c'est vrai que quand on lit la loi, quand on lit le Lévitique, il y a toute une liste d'aliments qu'il ne faut pas manger. On connaît le porc, par exemple. Je suis sûr qu'il y en avait à la table du roi. Mais il n'y a pas que les aliments interdits. Il y a aussi la façon de préparer qui était particulière. Et en particulier, il fallait saigner les animaux pour ne pas manger de sang. Participer et manger ainsi, c'était se rendre impur. Et être impur, ça empêchait de participer au culte. Quelqu'un qui était impur ne pouvait pas participer au culte. Et même dans le Lévitique, on dit ceux qui mangent du sang seront retranchés du peuple. Donc on peut comprendre la motivation. Et en même temps, ils sont là en Babylonie, ils n'auront pas l'occasion d'aller au temple très souvent pour participer aux célébrations. On peut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent ? Enfin bon, c'est ce qu'ils demandent. Et le responsable qui s'occupe d'eux, il les aime bien. Il n'est pas contre leur faire plaisir. Mais en même temps, il a peur d'avoir des problèmes. Parce que lui, il sait que si on mange que des légumes à l'eau, au bout des 3 ans, on ne sera pas grassouillet. Et là, Daniel propose, mets-nous à l'épreuve. On fait un test pendant 10 jours. Clairement, Daniel recherche la volonté de Dieu. Si c'est ce que Dieu veut, alors ça se passera. Et c'est ce qui se passe. Au bout de 10 jours, ils sont plus grassouillets que les autres. C'est un miracle. Les légumes font grossir plus que les viandes en sauce. C'est un miracle et il y a aussi une bénédiction. Parce que non seulement il y a la santé et l'apparence qu'ils ont, mais Dieu leur donne la sagesse. L'intelligence et le discernement. Et à Daniel, il donne la possibilité, la capacité d'expliquer tous les rêves, les visions, les songes. Et au-delà de ce que Dieu leur a donné, il y a une brillante carrière comme ça qui va s'exercer auprès de nombreux rois. Je cherche, hein, mais c'est là que je fais un peu l'historique, que je prends un peu d'avance, parce que Nabucodonosor prend Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ et il règne jusqu'à 562. Ensuite, il y a une succession de différents rois qui se trucident les uns les autres. Il y a Amel Marduk, Nériglassar, Labish Marduk. Ça termine avec Nabonide qui n'aimait pas Babylone. Donc, il a placé son fils en régence, Balthazar. Et Balthazar, on le retrouve au chapitre 5. Et Daniel, il est encore là. Et il est encore là, nous dit le texte, la première année du roi Cyrus. Et le roi Cyrus est celui qui vient, le Perse, qui vient conquérir Babylone. C'est la fin du règne de Babylone. Et la prise, elle est en 539. Donc, entre 605 et 539, il y a 66 ans, pendant plus de 60 ans, Daniel a pu, comme ça, exercer ce rôle de haut fonctionnaire. On dit en France qu'on a des hommes politiques qui durent longtemps, mais quelqu'un qui reste haut fonctionnaire, conseiller spécial de plusieurs rois à la suite comme ça pendant 60 ans, c'est quand même dingue. Que retenir de ce texte? Bien sûr, on va retenir que Daniel n'a pas voulu manger les mets du roi. Il a voulu rester fidèle et il a dit non. Mais il faut avoir conscience qu'il y a pas mal d'autres choses qu'il a faites. On l'a lu, ils ont par exemple... Je dois dire que ce qui suit, je le dois à un prédicateur qui a travaillé ce texte dans cette église en mai 2012, mais qui a bien relevé ces problématiques. En 2012, certains connaissent Olivier Randall, je le cite. Parmi ce que Daniel et ses amis ont eu à avaler, il y a le changement de leur nom, par exemple. Il s'appelait Daniel, Dieu est mon juge. Michaël, qui est comme Dieu. Leur nom faisait référence à leur Dieu et on leur change. On ne les change pas pour les humilier, c'est parce que ça va être difficile à prononcer. Mais quand même, il y a leur identité qui part là. Et puis, dans leur cursus de formation, ils doivent apprendre la langue, ils doivent apprendre la culture. Alors, il y a des belles choses à apprendre, hein, les sciences, les mathématiques, la médecine, mais aussi des trucs qui sont plus dérangeants. Ils ont dû apprendre toute la mythologie des peuples de ces lieux, toutes les divinités, tout l'occultisme, la divination, l'astrologie. Les Chaldéens étaient connus pour ça. Et donc c'était ça, leur cursus de formation. Et puis ils ont dû servir un ennemi qui a pris le pays et qui s'apprête à détruire le temple, pareil. Ça fait beaucoup de couleuvres à avaler. Et ils le font, parce qu'ils doivent. Mais ils mettent une limite. Pourquoi est-ce qu'ils la mettent là? Ils auraient pu la mettre ailleurs, ils auraient pu refuser de changer de nom, ils auraient pu refuser d'être au service du roi, ils auraient pu bâcler leurs études pour se faire virer. Ils auraient pu être rejetés, mais rejetés parce qu'on a été fidèle à son Dieu, on peut en tirer une certaine fierté. Au contraire, ils auraient pu choisir de laisser couler. Impur, on ne peut plus aller au temple de toute façon. Rejeté du peuple, on est à la cour de l'empereur de toute façon. On est embauché ici, on joue le jeu. Ils ont choisi de mettre une limite. Ils acceptent beaucoup de choses, mais pas tout. Ils sont loyaux envers le roi, mais ils posent une limite à la loyauté envers l'empereur. Parce que la loyauté qu'ils ont envers Dieu, ils veulent qu'elle soit au-dessus, qu'elle soit prioritaire. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce récit, nous? Qu'est-ce qu'on peut en garder pour nous? Moi, quand je pense au livre de Daniel, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de proximité avec ce qu'on vit, nous. Déjà, Daniel, il vit en exil, et nous vivons en exil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la terre, autour de nous, ce n'est pas le royaume de Dieu. Notre Seigneur règne, mais nous attendons son retour, le jour où il viendra, qu'il règnera, que le péché disparaîtra. En attendant, eh ben, nous sommes là, dans un monde imparfait, et nous devons nous adapter. Ensuite, deuxième point commun, on nous demande de la loyauté. Ceux qui travaillent doivent avoir une loyauté envers l'entreprise à laquelle ils travaillent, les valeurs de l'entreprise, les intérêts de l'entreprise, en particulier ses intérêts financiers. Récemment, la loi a été changée. On demande à l'Église une loyauté envers la République, envers les valeurs de la République qui ne sont pas définies. C'est une espèce de pochette surprise et on ne sait pas ce qu'on va nous demander, mais on nous demande cette loyauté. Nous demander la loyauté à la famille, à une culture, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça ici. On nous demande d'être loyaux. Et on a, comme Daniel, la possibilité de laisser couler et d'être confortable. L'entreprise nous verse un salaire qui nous permet un certain confort matériel et plus on monte de compétences, et de loyauté, plus on monte en salaire, en confort. À ces cadres, l'entreprise donne des privilèges, des avantages, des responsabilités. l'Église avec la République. On ne sait pas ce qu'ils vont nous demander, mais on nous promet, si vous acceptez les valeurs de la République, tout se passera bien. Ne parlez pas trop fort de votre éthique, oubliez-la, acceptez les valeurs. On peut être confortable avec la technique du caméléon. On a le droit de faire ce qu'on veut chez nous. Oh, c'est généreux. Par contre, en dehors, sois comme tout le monde. Ne fais pas de vagues. Est-ce qu'il y en avait qui étaient là lorsqu'on a fait le Forum Veritas avec Christian Gaudin et David Brown? Merci. Personne? Si, quand même, quelques-uns. J'ai été frappé, j'allais même dire piqué, par quelque chose qu'a dit Christian Gaudin, le philosophe agnostique qui discutait avec le pasteur David Brown. Il a dit qu'aujourd'hui, pour les chrétiens, le confort est plus important que leur fidélité à Dieu. Leur confort est plus important que leur fidélité à Dieu. Je n'ai pas revu, je ne connais plus ces mots exacts, mais il a dit ça. Les croyants ne préfèrent plus leur Dieu à leur vie. Les seuls, disait-il, qui préfèrent leur Dieu à leur vie, ce sont les intégristes musulmans qui sont prêts à se faire sauter pour tuer des gens et pour aller au paradis parce qu'ils ont cette espérance. Alors, Jésus-Christ n'a pas demandé de faire avancer son royaume par la violence et le conflit, on n'a pas le même programme, mais depuis le livre des Actes, depuis Étienne qui a été lapidé au chapitre 7, nombreux sont ceux qui ont accepté de mourir pour leur foi plutôt que de renier leur Seigneur. Et moi, quand j'ai entendu Christian Gaudin dire ça, j'ai été piqué, comme je vous l'ai dit. J'ai été piqué parce que je me suis dit qu'il n'avait pas tort. On aime notre confort. Et parfois, on voit Dieu comme quelqu'un qui va m'aider à mieux vivre ma vie. Mon travail, mes relations, mes difficultés, j'ai un problème, je prie, Dieu est avec moi, il va me permettre de mieux vivre ma vie. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Il y a 2 semaines, je prêchais l'évangile de Marc, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce que Dieu nous propose, ce n'est pas un peu de Dieu dans notre vie pour que ça aille mieux, c'est de laisser notre vie pour le suivre. Et là où je donne raison à Christian Gaudin, c'est que je ne peux pas dire quelle importance a Dieu dans notre vie personnelle, dans notre système de valeurs, etc. Mais ce que je constate, ce que je vois, quand on regarde la vie de l'Église, les réunions, le don financier, et bien finalement, ce n'est pas toujours ma top priorité. Et ça vient m'interroger, moi aussi, est-ce que je ne suis pas tenté par la technique du caméléon? Je m'adapte. Comment est-ce qu'on marque la différence? Comment est-ce qu'on marque la différence? Que faire? Alors, il y a une différence entre Daniel et nous. C'est que nous, eh ben, on vit sous la grâce. Le salut que l'on a en Jésus, il est gratuit. On n'a rien à faire pour le mériter. On n'a pas besoin de suivre une loi, de suivre une prescription, de manger ceci ou cela, de venir à telle réunion ou pas. On vit sous la grâce. Il n'est pas commandé de venir à l'église, de donner la dîme, de s'engager jusqu'à tel ou tel niveau. On ne gagne pas notre salut. Et puis, Dieu pardonne. Personne n'est parfait. Dieu pardonne. Merci Seigneur. En même temps, nous aurions tort d'oublier combien le Nouveau Testament est exigeant. Je parlais de ce texte de Marc. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Il y a 2 ans, en groupe de maison, on a étudié le sermon sur la montagne. Si ça, ce n'est pas exigeant, la loi de Jésus, je ne sais pas ce que c'est. Pour appuyer notre projet d'église, on cite souvent Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le verset 20, enseignez à garder tout ce que je vous ai commandé. Il y a des exigences. Il y a des commandements avec Jésus. En fait, il y a une espèce de dualité. Marcher avec Jésus, rien n'est obligatoire. Le salut est gratuit. Mais si on lit ce que Jésus dit, rien n'est assez. De toute façon, rien de ce qu'on puisse faire ne peut être assez. Heureusement que c'est gratuit alors. Concrètement, comment faire? Où marquer la différence? C'est une question difficile à répondre parce que régulièrement, toute église, tout prédicateur peut glisser dans le légalisme, dire « il faut faire ça ». Et ce n'est pas une réponse. Jésus a toujours refusé de le faire. Où marquer la différence? À chacun de le dire. À chacun de voir, à chacun de le dire pour sa vie. Daniel, il a choisi de marquer la différence sur l'alimentation. Et pour nous, où est-ce qu'on va marquer la différence? Ça peut être dans la participation aux réunions, mettre un point d'honneur à venir, participer au culte, chanter les louanges de Dieu, écouter sa parole. Le faire parce que je constate que j'ai besoin de cette nourriture, alors je le fais régulièrement, tout le temps. Ça peut être ne pas quitter son église dans un monde d'une culture de consommation où quand on n'est pas content, on peut aller ailleurs. Dans ce monde, j'ai vu des personnes choisir de rester alors qu'elles sont en désaccord avec leurs églises et pas de rester pour une espèce de combat de l'intérieur pour avoir raison, mais rester parce qu'elles trouvent dans la Bible que la fidélité est importante et qu'elles choisissent de se soumettre à ce commandement de fidélité. Ça peut être marquer la différence, ça peut être donner financièrement. Dans ce monde de consommation où l'argent règne, dire que le plus important pour moi, ce n'est pas avoir le maximum pour consommer le maximum, mais que je fais confiance à Dieu qui me donnera toujours ce qui est nécessaire pour moi. Mettre la limite, ça peut être refuser de jouer selon les règles du monde. Et je pensais aux mensonges, pardon, aux excuses. Il est couramment admis qu'on peut sortir une excuse invérifiable pour se dédouaner de quelque chose. J'arrive en retard, mais il y avait un des bouchons ou tel imprévu. C'est vrai, mais en fait, il y a aussi tout ce que j'ai fait, comment je me suis mal organisé, mais je place une excuse pas vraiment vérifiable. Pas forcément vrai, pour couvrir le non-respect d'un engagement personnel ou de mon entreprise ou de mon groupe. C'est communément admis, tout le monde le fait. Où mettre la limite? Il y a beaucoup d'endroits où mettre la limite. Michael, pour le dimanche de rentrée, prêchait sur Romains 12, les versets 1 et 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. On peut lire tout le chapitre 12, il y a plein d'idées de où marquer la différence. À chacun de dire où il veut la mettre. Et il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas parfait. Et que si on veut viser d'être parfait et de viser de tout faire en même temps, ben c'est la faillite assurée. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas arriver à tout faire bien qu'il ne faut rien faire. Pourquoi? Pourquoi mettre une différence? Pourquoi le faire? Puisque notre salut n'en dépend pas. Puisque Dieu nous offre ce salut gratuitement. Je crois que c'est un témoignage. C'est un témoignage pour plusieurs. C'est un témoignage pour ceux qui ne croient pas. J'ai tout signé tout à l'heure l'intervenant Christian Gaudin. Il observe les chrétiens. Et sa conclusion, je n'ai pas vu de différence. Quelle est la différence? Quand on nous regarde, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la différence? Ce n'est pas une différence théorique qui est recherchée, c'est une différence qu'on peut voir. C'est un témoignage pour les non-croyants, mais je crois aussi que c'est limite qu'on se donne cet témoignage pour moi-même. Je me rappelle à moi-même que Dieu est plus important que tout. Je me rappelle à moi-même que ma loyauté ultime, elle va à Dieu, et pas à mon employeur, à la République, à ma famille ou que sais-je. Et je m'en rappelle, pas en théorie, le soir avant de m'endormir ou le matin quand je me lève, je m'en rappelle au cours de ma journée, dans ce que je fais, dans ce que je mets en place. Et je crois que c'est aussi un témoignage pour les autres croyants, pour mes frères et sœurs. Parce que on a beau dire, on est encouragé quand on voit les autres tenir, ou on est découragé quand on les voit lâcher. Pourquoi le faire quand personne d'autre ne le fait? Même ceux qui sont dans l'église avec moi, même ceux qui disent craindre Dieu. Si vous regardez ce récit, Daniel, il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec 3 amis. Et à 4, ils ont porté ce fardeau, et ce fardeau de la fidélité, et ils se sont encouragés les uns les autres. Il ne s'agit pas de le faire pour les autres, pour l'apparence, mais avoir une conscience que j'ai un effet sur les autres, que je peux aussi encourager les autres. J'aimerais m'arrêter là pour cette prédication. Conclure en rappelant que nous sommes sauvés par grâce. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas une liste de « il faut, il faut, il faut, il faut ». Jésus a tout payé. Et Monique nous l'a fait chanter, quel amour, quel sacrifice, tout est payé. Nous sommes pardonnés, réconciliés gratuitement. Mais ça ne nous dispense pas de montrer et de vivre notre amour. Et j'aimerais prendre un tout petit exemple. Mon épouse, Diane, qui, même si elle est française, reste anglaise, aime avoir une tasse de thé le matin quand elle se réveille. Et si je peux me lever avant elle et lui apporter ça, c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir, où elle se sent aimée. Je n'ai pas besoin de faire ça. Diane ne me quittera jamais, ne divorcera jamais parce que je ne lui ai pas apporté une tasse de thé un matin. Elle ne me reprochera même pas de ne pas l'avoir fait. Mais elle m'a dit qu'elle se sentait aimée quand je fais ça. Et moi, quand je le fais, je sais que c'est un acte d'amour. Je le sais, même si on a un peu été en froid la veille. En fait, je le sais surtout si on a été en froid la veille et si je me force à le faire, je me rappelle à moi-même combien je l'aime. Et ceux qui sont autour, nos enfants, quand ils le voient, ils voient aussi que l'amour, ce n'est pas seulement quelque chose de théorique, mais que c'est quelque chose de pratique. Et ils sont encouragés dans ce sens. Nous sommes pardonnés, réconciliés gratuitement, mais ça ne nous dispense pas de vivre notre amour et de notre loyauté envers Dieu par des gestes concrets, par des limites qu'on se fixe, par refuser la logique du siècle présent. Nous vivons en exil, dans un monde qui ne marche pas selon les règles du royaume. Et Jésus le sait, et il nous y a laissé à dessein, malgré la difficulté que c'est. Il nous y a laissé pour témoigner. Il nous a été laissé pour être sel, pour donner du goût à ce monde fade. Il nous a laissé pour être lumière visible, pas une lumière qu'on met sous un seau, qu'on cache. Comment montrons-nous notre amour pour Dieu? Est-ce que notre loyauté ultime, elle va vers lui? C'est la question que vient me poser Daniel dans ce récit, dans ce chapitre 1. C'est la question avec laquelle j'aimerais vous laisser. Avec l'assurance que Dieu est bon, même en exil. Amen.